C'est parti. Bon, donc, oui, juste un petit complément à ce que vient dire Yves. En fait, ce qui est là, ça représente, disons, les deux ou trois dernières années de travail de détails faites avec Pierre, sur l'aspect économique. En fait, on a travaillé vraiment ensemble en tant que retraités, parce qu'avant, on s'était vu un certain nombre de fois, mais de façon relativement distante, mais là, de façon très... depuis 2003. Et ensemble, on a... en fait, nous avons des... ensemble, d'abord, l'un à côté, l'un presque séparément en parallèle, en 2003-2004, moi, c'était essentiellement au niveau de région Grenoble et Lyon. Donc, je présentais un scénario qui s'appelait sortir du nucléaire, sortir des fossiles. Vous voyez, moi-même, je... ça s'appelait sortir des fossiles. Et Pierre, en 2004, au sein du GR21, au sein de la SFENGR21, groupe de réflexion, sur... nous avons dit, ben, finalement, on va mettre ça ensemble. Et nous avons, ensemble, lancé le scénario Négatep. Et, le terme Négatep, c'est Pierre qui l'a proposé. Et donc, ce scénario Négatep a finalement fait la... pas la une, évidemment, mais il a été quand même accepté, au moins, notamment par le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il était présenté, non pas par la SFEN, parce que dans la SFEN, il y a un N absolument horrible. Donc, la SFEN ne peut pas être considérée comme une association... à consonance écologique, bon pour l'environnement. Par contre, Sauvons le Climat, association Sauvons le Climat, elle était acceptée comme association favorable à l'environnement. Et donc c'est via Sauvons le Climat, donc Pierre et moi, nous étions tous les deux membres depuis le début de Sauvons le Climat, et donc c'est via là qu'est rentré le scénario Négatep. Alors, plus que ce qu'a expliqué Yves, en fait, je vais présenter... non pas Négatep uniquement, mais Négatep par rapport à d'autres scénarios, dont notamment le scénario Négawatt, de façon à faire quand même une comparaison, non pas entre deux extrêmes, parce que je ne dis pas ces deux extrêmes, deux voies quand même très différentes. Voilà. Donc on parle beaucoup de transition énergétique. Bon, la phrase générale, je vais la commenter après, vers une société sobre en énergie et en carbone, chaque fois méritera d'être discutée, mais je reviendrai là-dessus. Mais enfin, pourquoi pas ? Seulement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est tout ça c'est très bien, mais à quel coût ? Alors, je rappellerai juste le contexte général. Bon, à chaque réunion, on doit probablement, en conférence, vous présenter ça. Je vais être très court. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les besoins en énergie vont être multipliés par deux, ça c'est une quasi-certitude, d'ici 2050. Pourquoi multiplier par deux ? Ben, la population, elle, ne va pas être multipliée par deux. Mais une certitude, la population va augmenter, elle, d'au moins 50%, puisque nous étions 6 milliards quelques mois avant le passage en l'an 2000. Nous sommes passés à 7 milliards en 2011. On a fait plus d'un milliard entre 12 et 13 ans. On n'a jamais été aussi vite dans l'augmentation de population mondiale. On peut voir de temps en temps, je ne sais pas, on voit parfois, la population augmente moins vite que prévu. On n'a jamais été aussi vite. Plus d'un milliard en 13 ans, ça ne s'est jamais vu. Et une certitude maintenant, nous allons dépasser de combien les 9 milliards, alors 9 milliards 2, 9 milliards 3, pour 2050. Ça, c'est une quasi-certitude. Au-delà, certains pensent déjà qu'on devrait se stabiliser à 10 milliards. Je pense que c'est absolument impossible. Mais bon, maintenant, là, c'est trop loin encore, laissons déjà. Mais, donc, première, plus 50% de population, ça c'est sûr. Et au sein de ces populations, plus besoin par habitant. Car en effet, quand on voit les disparités qu'il y a actuellement, hein, je parle évidemment, disparités extrêmes, quand on dit l'Américain, l'USA, c'est 4 fois, consomme 4 fois plus que la moyenne mondiale, et quand on dit l'USA, on vise tout de suite, mais l'USA, c'est pas que les États-Unis, c'est le Canada, c'est l'Australie. Bon, alors évidemment, plus près que nous, on va dire c'est le Luxembourg. Mais enfin, c'est tellement petit à petite échelle que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, c'est quand même... ce n'est pas que les USA. On vise toujours les USA, mais c'est... Bon, voilà. Et à côté de ça, ben, à côté de ça, l'autre bout, évidemment, si je prends le Bangladesh, c'est 9 fois moins. Donc, si je veux mettre... Donc, il y a des retards considérables. Et il est sûr que les besoins d'énergie vont quasiment sûr être multipliés par 2 d'ici 2050. Or, comment répondre à ces besoins ? Ben, on regarde tout de suite qu'est-ce qui fournit actuellement l'énergie essentielle via des combustibles fossiles. Plus de 80%. On reste juste après quelques chiffres. Plus de 80%. Ah, est-ce que eux peuvent être multipliés par deux ? La réponse est aussi quasiment non. L'ensemble des combustibles fossiles, non, ne peuvent pas être multipliés par deux. Le pétrole, alors, si on raisonne d'ici 2050, les grandes lignes sont que le pétrole devrait peut-être avoir commencé à baisser, de façon significative. Par contre, le gaz devrait monter, et le charbon devrait fortement monter. Mais, globalement, les combustibles fossiles ne peuvent pas répondre à cette multiplication par deux. Alors, certains ont dit, heureusement. Heureusement, parce qu'il y a quand même, à côté de ça, qui dit combustible fossile, dit effet de serre. Donc, il faudrait, de toute façon, réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Alors, est-ce que ça va venir naturel, forcé par l'aspect financier ? Mais ça ne sera pas suffisant. Il faudrait, si on veut vraiment limiter le réchauffement climatique, il faudrait autre chose. Alors, du coup, on arrive à la solution. Que faire ? Bon, ben, économie d'énergie, facile à dire. On verra après ce que ça veut dire. Sobriété, efficacité. Alors, sobriété, ben, c'est serrez-vous la ceinture. Mettez des pulls, faire de la marche à pied, la trottinette et tout ça. Hein. C'est ça, c'est la sobriété. Bon, on va voir dans un scénario, manger deux fois moins de viande et aussi, voilà. Mais alors, l'efficacité, par contre, c'est ben, mettez de l'isolation dans vos logements. Mais par contre, efficacité, on voit tout de suite à côté. Alors, sobriété, on va dire, ça ne coûte rien. Sauf si ça conduit à des maladies. Hein. Si ça coûte rien et qu'on impose les 19 degrés comme température maximum dans tous les logements, y compris chez les personnes âgées, bon, ça coûtera en santé. Alors on dira, évidemment, on dira, bon, une certaine mortalité, finalement, ça va peut-être pas coûter grand-chose, vous voyez, ouais. Allez, faut pas. Voilà, bon, par contre, l'efficacité, elle, ça coûte cher. C'est sûr que l'efficacité coûte cher. Isoler le logement, ça coûte très cher et on verra très vite, voilà. Et à l'autre côté de ça, il faut faire appel à d'autres sources d'énergie qu'on avait appelées décarbonées. Alors, ce sont les renouvelables, en séparant bien dans les secours, les renouvelables thermiques. Alors, les renouvelables thermiques, c'est représenté essentiellement par la biomasse. Et les renouvelables électriques, alors, c'est représenté essentiellement par l'hydraulique et par les nouvelles renouvelables, renouvelables d'électrique. Donc là, c'est l'éolien. Et puis reste une source décarbonée, quoi qu'on dise quand même, qui est le nucléaire. Alors voilà, donc là, c'est pour vous montrer un peu la situation actuelle. Il faut bien, avant de parler beaucoup de l'avenir, il faut déjà se rappeler la situation actuelle. Et bon, voilà une mode de présentation que je préfère à beaucoup. On voit souvent des camemberts. Bon, voilà, c'est assez... Regardons la situation au niveau mondial. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, 80% vient des combustibles fossiles. C'est 82% de combustibles fossiles. On voit numéro 1, c'est le pétrole, puis le charbon, puis le gaz. Le pétrole est devenu numéro 1 en 1970 à peu près. Ça ne veut pas dire que le gaz a baissé. Le gaz n'a cessé d'augmenter. Le pétrole a remplacé le gaz comme numéro 1, enfin, a remplacé le charbon comme numéro 1, mais le charbon a continué d'augmenter. Tout a augmenté. Par contre, le pétrole a augmenté de façon vertigineuse, due essentiellement à la mobilité. Voilà. Et puis, finalement, en dehors de ça, ben, il ne reste pas grand-chose, hein, 18%, avec les renouvelables et le nucléaire. Là, on est au niveau mondial. Alors, si on voit maintenant, si on fait un schéma, la France, parce qu'on va surtout regarder l'aspect financier côté français, c'est là où on peut vraiment chiffrer, on constate que la France repose, alors ne, mais c'est déjà énormément, 50% sur les énergies fossiles. Du fait de la présence significative du nucléaire. Et quand on regarde un peu les couleurs, ben on voit que on déplace ici le charbon qui est là par le nucléaire et on a l'explication presque à 100%. Le nucléaire a remplacé le charbon et ça c'est net dans la production d'électricité. Alors cette comparaison France-monde, évidemment, n'est pas très parlante parce qu'il y a de tels écarts entre la France et le monde. Par contre, c'est un peu plus intéressant de faire une comparaison entre la France et l'Allemagne, deux pays finalement assez voisins en tant que PIB par habitant, mode de vie. Et on voit que finalement, l'Allemagne représente pratiquement le reste du monde, forte présence du charbon. Un peu plus, évidemment, par rapport à la France, la différence c'est essentiellement entre le charbon et aussi un peu plus de gaz. L'Allemagne repose beaucoup plus sur le gaz qui vient essentiellement de Russie. Hein, voilà, donc ça c'est clair. Voilà la différence entre la France et l'Allemagne. Et ceci se voit au niveau des rejets de gaz carbonique par habitant uniquement dû à la production énergétique. Donc on voit qu'il y a quand même il y a plus de 50% d'écart pour uniquement cet aspect-là. Alors tout ceci, avant de rentrer dans le détail, là, donc face à ça. Pourquoi parle-t-on de transition énergétique ? On met en face, on dit, Ben, il y a trop de combustibles fossiles actuellement. 80%, c'est trop. Et il y en aura encore trop à l'avenir. Donc il faut absolument se dégager de ces combustibles fossiles. Alors, globalement, pour l'effet de serre, ça c'est vrai pour tout le monde, et si on voit essentiellement la partie française, c'est pour l'indépendance énergétique et la balance des paiements. Alors, pour globalement, au niveau mondial, on dit qu'il faut diviser par deux, au niveau mondial, les rejets de gaz carbonique au milieu du siècle, pour ne pas effacer les deux fameux 2 degrés de montée de température, qu'on considère comme un peu une limite du supportable. Enfin, il y aura déjà de telles modifications. Aller au-delà, ça fera quand même des modifications difficiles à supporter. Faudra. En toute façon, on s'y fera. Hein. Simplement, ça fait en 100 ans, ça va être peut-être difficile. Voilà. Bon. Donc, on va s'y faire. Hein. Mais ça va être probablement difficile. Donc, si on veut que ce soit trop difficile, si on veut limiter l'effort, il faudrait diviser par deux. Mais divisé par deux au niveau du monde. Et comme on ne peut pas demander à ceux qui consomment presque rien de diviser par deux, ça veut dire que il faut que ceux qui consomment, c'est-à-dire les pays développés, divisent par quatre. Avec simplement un petit mot très mollo quand même, c'est que si on applique ça au niveau de l'Europe, eh ben c'est facile. Et donc on constate que dans toutes les discussions au niveau européen, alors là on fait jamais, on prend jamais ça en compte, c'est que c'est bien gentil, mais si on dit, c'est comme la France a déjà fait un grand pas, eh bien, il faudrait que si on dit 4, ben, ça serait par exemple 3,5 pour la France et 5 pour l'Allemagne. Alors, je ne veux pas dire pour les États-Unis, ça serait divisé par 10. Bon, alors ça, c'est bon. Voilà. Par contre, alors, donc ça, c'est l'aspect rejet de gaz carbonique, donc réduire fortement l'utilisation des combustibles fossiles et la dépendance énergétique. Alors là, c'est la première fois où commence à parler d'argent parce que je vais, à partir de maintenant, beaucoup parler. L'unité de base, ça va être le milliard d'euros, mais beaucoup plus 10 milliards. On va beaucoup souvent raisonner par deux tranches de 10 milliards, 100 milliards, pour globalement tourner à plusieurs, au-delà des 1000 milliards d'euros. Hein. Ouais, bon, enfin, ouais. Voilà. Donc, pourquoi? Alors, l'aspect financier, c'est que simplement, actuellement, ce que nous. Les devises qui sont liées aux combustibles fossiles, c'est essentiellement le pétrole et un tout petit peu le gaz, ben c'est quand même 68 milliards par an, c'est pratiquement notre déséquilibre de notre balance commerciale. Alors, tout de suite, on pourrait dire, ben c'est formidable finalement, si je mets comme objectif divisé par 4, eh ben voilà, j'ai gagné 51 milliards. On voyait souvent parler, vous avez bon, des chiffres, des livres, un certain nombre de livres qui sortent par des économistes, ben finalement, 50 milliards d'euros, c'est ce qu'il faut faire en France pour gagner en France avec ça. Et donc, c'est les ordres de grandeur. Je ne sais pas si vous allez dire, il n'y faut faire que 50 milliards d'économies. Voilà. Maintenant, on les cherche. Comment les trouver? Voilà. Alors, évidemment, facile à dire. Maintenant, on verra très vite que pour réduire ces 50 milliards, on risque fort d'en dépenser beaucoup plus. Mais c'est malheureusement ce qu'on va trouver progressivement. Alors, malgré tout, un petit point avant de, justement, maintenant, partant du point de départ, pour l'avenir, on constate que l'avenir, on peut faire une liaison. Alors voilà, nous sommes ici, là, et il n'est pas mauvais de prendre un peu de recul et de voir ce qui s'est passé sur ces 50 dernières années. Et donc là, on est dans les 30 glorieuses, et on voit que l'ensemble, PIB, consommation et rejet de gaz carbonique augmentent de façon quasiment très proche. Il y a ce qu'on appelle un facteur d'élasticité. Et puis arrive la crise pétrolière, première crise pétrolière, enfin les différentes crises pétrolières, et il s'est passé ce que j'appelle la première transition, parce qu'on dit qu'il faut faire la transition énergétique. La France a déjà fait une sacrée première transition là, et ça se voit là, par la baisse des rejets de gaz carbonique, qui sont dus uniquement au nucléaire. Et en effet, quand on voit, le PIB, il suit un petit peu l'évolution des différentes crises pétrolières, hein, la première famille des crises pétrolières en 1973, ensuite autour des années 90 et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière crise, ici, un tout petit peu pétrolière, mais qui n'a pas du tout, c'est essentiellement, on va dire, crise économique, enfin, disons, toute la, qui a démarré en 2008, 2002, enfin, 2007, 2008, 2009, en France, ça s'est commencé à se voir essentiellement en 2009, et donc, finalement, le PIB, il zozote, hein, il bouge plus. Et alors, à côté de ça, donc, si on voit l'évolution, alors, si on suit l'évolution du PIB, on constate que la consommation n'a pas suivi, heureusement, parce que notre consommation serait là, si on avait suivi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'augmentation du prix des combustibles fossiles, du pétrole essentiellement, a fait que les efforts ont été faits pour économiser. Et c'est essentiellement les industries qui ont fait l'essentiel des économies. Bon, ça s'est vu un tout petit peu aussi dans la mobilité, mais pas tellement, parce qu'en fait, c'est pendant toute cette période-là. Contrairement, les moteurs ont peut-être été de plus en plus performants, mais les masses déplacées ont été de plus en plus lourdes, et on a vu de plus en plus de gadgets s'ajouter. Bon, je ne vais pas parler des airbags comme gadgets, mais à force d'en rajouter, voilà. Donc en fait, l'essentiel des gains viennent de l'industrie. Et donc, c'est ce qu'on appelle. Donc, c'est des gains. Alors, c'est l'efficacité. C'est la notion d'efficacité. Alors, nous sommes là. Alors, partant de là, supposons qu'on aille dans la continuité. Alors, la continuité, c'est par exemple, supposons que le PIB augmente d'1,5% par an. Bon, je pense que tout le monde prie tous les saints du paradis, mais des cierges partout dans toutes les églises, pour que vraiment le PIB dépasse 1,5% par an. Donc c'est quand même un espoir général. Donc avec plus 1,5% par an, eh bien voilà vers quoi on s'oriente. Et donc ce qui veut dire, c'est que là, il faut faire des efforts d'économie d'énergie, essentiellement d'efficacité. Et en plus de ça, il faut faire autre chose parce que ça suffira jamais à faire baisser les rejets de gaz carbonique. Il faut faire, en plus de ça, augmenter la part des sources d'énergie décarbonées. Et donc, le nucléaire, alors là, j'ai mis un plus ou un moins, parce que c'est l'un des débats principaux, étant donné qu'actuellement, la tendance est plutôt moins. Je pense que il semble que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas très clair actuellement. Il semble qu'après tous les allers-retours entre eux, actuellement, il semble, d'après les informations que j'ai eues ce matin ou hier soir ou cette nuit, disons que à l'Assemblée nationale, ils auront confirmé que le nucléaire ne devait pas dépasser les 50% pour 2025. Donc on est nettement dans le moins. Alors, pourquoi pas? On va voir. Par contre, il est sûr que plus renouvelable, et là-dessus, il n'y a aucun doute. Il faut, d'ailleurs, enfin, c'est d'autant plus facile qu'on n'a pas beaucoup. Donc c'est très facile de faire beaucoup plus de renouvelables. Alors la question que va se poser, c'est évidemment avec... Voilà. Et donc là, on est dans la transition à venir. Alors, où agir? Alors, vous avez là, vous voyez là, la consommation. Comment se répartit la consommation actuelle? Alors, on peut regrouper... évidemment, si on prend dans l'ordre, on dit le numéro 1, c'est les transports. Ensuite, il y a le résidentiel et le tertiaire. Bon. Toutefois, résidentiel et tertiaire, sous l'aspect technique, efficacité, c'est qu'en général, les mêmes problèmes et les mêmes façons de résoudre. Bon, l'isolation, il faut isoler les logements, de même qu'il faut isoler les centres commerciaux, les ateliers et tout ça. Donc, des points communs. L'éclairage, on peut dire, les deux jouent. Pas nécessairement toujours, c'est pas toujours les mêmes incitations, mais enfin, donc il y a quand même un bloc résidentiel et tertiaire très important. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ce bloc même le plus important rejette moins de gaz carbonique que les transports seuls. Parce que actuellement, dans ces utilisateurs, il y a déjà des utilisateurs hors combustible fossile. Bon. Voilà. Et donc, partant de ça, on peut déjà dessiner les grandes actions prioritaires. Alors, pour l'ensemble résidentiel et tertiaire, bon, c'est presque évident. Isolation. Plus ou moins, alors la question se pose, plus ou moins poussée. Parce que, et on verra très vite là, et oui, mais à quel coût? Parce que plus l'isolation est poussée, plus ça coûte cher. Et tu vois, ce qui coûte une fortune, c'est les derniers kilowattheures qu'on veut essayer de gagner. C'est très facile de gagner au début. Bon, pour gagner simplement, j'isole un petit peu des combles, ça coûte pas très cher, et là, je gagne. Puis une fois que j'ai fait ça, après, on verra tout après. Donc, la question, et donc pour ça, voilà, donc isolation plus ou moins poussée. Ensuite, si la question, la question se pose déjà dans le niveau des logements neufs, par contre, l'essentiel, c'est quand même pour l'ancien. Et l'essentiel, c'est la rénovation de l'ancien, et c'est là que se pose quand même le plus de problèmes financiers. Ensuite, au sein, pour le résidu, il faut remplacer les fossiles par des renouvelables thermiques et une électricité décarbonée. Alors, électricité décarbonée, après, ça peut être du renouvelable, ça peut être du nucléaire. Là, je reste global. Pour la mobilité, elle repose, vous avez vu tout à l'heure qu'en fait, oui, je disais, pour justifier ce que je disais en dehors de ce chiffre, c'est que les fossiles ne se fait que 21% dans résidentiel tertiaire. Par contre, la mobilité est quasiment surtout pétrole, c'est-à-dire le total des 32% des transports repose sur le pot de pétrole. En dehors du pétrole, il y a un petit peu d'électricité pour les transports en tout main, il y a un petit peu de gaz, maintenant il y a des biocarburants de première génération, mais l'essentiel, c'est quand même des combustibles fossiles, carbonés. Voilà, donc pour les transports, donc, alors là, les grandes lignes, c'est presque évidence, plus de transports en commun, qui dit plus de transports en commun, c'est plus d'électricité, pour l'instant, enfin, bon. Ensuite, il y a encore des progrès possibles dans les moteurs, dans la continuité de ce qui a déjà été fait. Mais en corrigeant un peu tout ce qui a fait que ça n'a pas été très efficace, notamment l'aspect poids, et donc aussi des voitures de moins en moins grandes, pour d'autres raisons. Et de façon générale, pour la mobilité, plus d'électricité aussi, avec soit l'hybridation, et notamment ce qu'on appelle la pluggable, en fait, c'est-à-dire les batteries, qui servent en hybridation simple, elles-mêmes pouvant être rechargées de l'extérieur par le réseau. Étant donné que l'hybridation actuelle n'est qu'un pis-aller, ça ne fait qu'une petite amélioration des logements. Il faut vraiment changer complètement, faire une vraie hybridation avec rechargement réseau. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus être sur une voie gaz, dans la mesure où ce gaz a une origine renouvelable. Voilà. Donc, globalement, on constate qu'il y a une tendance à faire de plus en plus d'électricité. Alors, donc là, j'ai présenté déjà une réalité. Alors, vers quoi, actuellement, le gouvernement, que voudrait le gouvernement pour expliquer la transition énergétique? Alors, je vais pas vous relire mot par mot, simplement. Au passage d'une société fondée sur une consommation abondante d'énergie fossile, oui. C'est clair. À une société plus sobre et plus écologique, c'est déjà douteux. On voudrait dire, si on disait qui consomme moins d'énergie fossile, ça serait plus simple. Pourquoi ne pas le dire? Plus sobre, en quoi? Parce que si c'est plus sobre en électricité nucléaire, ça ne va pas du tout dans le sens. Vous voyez, enfin, bon. Donc, dès le point de départ, alors ensuite, ça, plus ça va, plus on s'enfonce dans le détail, avec des discussions possibles sur les points. Il faut faire des économies d'énergie. Alors ça, économie d'énergie. Alors, les exemples sont multiples. Vous remplacez un chauffage gaz par un chauffage bois. Vous perdez l'énergie. Globalement. Les rendements ne sont pas les mêmes. Par contre, vous avez gagné beaucoup en rejet de gaz carbonique. Donc, vouloir faire des économies d'énergie peut aller tout à fait dans le sens opposé à l'objectif initial qui serait de diminuer les rejets de gaz carbonique. Je ne sais pas si vous voyez les tendances très vite. Et ça, c'est général. Donc, économie d'énergie, attention, il faut déjà savoir de quoi on parle. Bon. Alors, utiliser le plus possible les énergies renouvelables, ben, le plus possible par rapport à quoi? Voilà, tout ça, ça peut se discuter, voilà. Bon, alors, ça, c'était, voilà ce qu'il y avait donc, ce qui ressortait, c'était l'annonce de départ de la transition énergétique, le débat sur la transition énergétique qui s'est déroulé fin 2012, essentiellement 2013, et s'est rajouté, disons, un texte supplémentaire, qui correspondait à une décision du gouvernement de ramener en 2025 de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité. Donc ça, c'est arrivé au milieu du débat. Au départ, ce n'était pas tout à fait prévu. Bon, on a dit, il faut rajouter ça, en faisant constater que toutefois que une des propositions du candidat Hollande, qui était d'arrêter Fessenheim, n'apparaît pas. Voilà. Voilà. Alors, partant de ça, donc on a les idées générales. L'ensemble des groupes de travail là, qui se sont réunis pendant des mois et des mois ont arrivé à cette présentation. Merci. Voilà. Donc, on part du tendanciel. Et on dit continuité, c'est pas possible. Hein. Si on continue, vous voyez, c'était ma courbe tout à l'heure, ça monte. Donc il faut faire la transition. Alors ensuite, là, voie important, un chemin important, là, c'est comme savoir si on va directement en enfer ou au purgatoire. Bon, vous êtes vraiment très mauvais, puisque vous ne prévoyez pas une réduction forte de votre consommation énergétique. Et donc le premier critère, c'est 25% et 50%. Donc ça, c'est un premier critère, l'essentiel, là, la balance d'à côté. Non, mais néanmoins, ceux qui ont présenté des scénarios qui osaient ne pas présenter au moins 50%, ils n'ont quand même pas été rejetés totalement à ce niveau-là. Néanmoins, ils sont classés là. Alors ensuite, on va plus loin, et ensuite on arrive à quelle est la place finalement des renouvelables. Et, alors, ce qu'il y a en bleu, c'est la présentation officielle. Ce qui est rajouté là, c'est des compléments personnels. Que dit la présentation officielle? D'un côté, elle classe ça, priorité renouvelable, et à l'autre bout, priorité nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, si on regarde, justement, on va après seulement regarder ces deux scénarios un peu limites, des bornes, ben, priorité renouvelable, la référence, c'est le scénario négawatt, qui en fait s'appelle sortir du nucléaire. Donc la priorité n'est pas les renouvelables, la priorité, c'est sortir du nucléaire. C'est clair? Puisqu'en effet, le nucléaire est zéro. Par contre, à l'autre bout, priorité du nucléaire, eh ben, si on regarde le scénario négatif, eh ben, finalement, le nucléaire représente 22% en énergie primaire. Alors, énergie primaire, ça veut dire en montant le plus possible la source. Pourquoi en énergie primaire? Parce que le nucléaire rejetant, il y a un certain nombre, il y a beaucoup de pertes à l'atmosphère dans les centrales nucléaires, comme dans les centrales au charbon au gaz. Donc évidemment, l'énergie primaire est plus affectée. Par contre, en énergie finale, on a un équilibre pratiquement. Dans le scénario négatif, c'est pour ça que j'ai rajouté, c'est une présentation très tendancieuse pour les journalistes. Priorité nucléaire, ben oui, mais priorité nucléaire, en fait, c'est qu'en fait, au point de vue puissance, le nucléaire ne va représenter en fait moins de 50% de la puissance installée. On va voir la différence, voyez. Donc on est loin de la priorité du nucléaire, on est presque arrivé plutôt à un équilibre. Alors, pardon. Alors, donc la première étape, c'est l'économie d'énergie. Que peut-on faire? Alors, dans tout ce qui suit, je vais... Parce que on peut dire la transition énergétique, ça va coûter tant. Mais ce qui est intéressant, c'est coûter tant par rapport à quoi? Et donc, la démarche est la suivante. Je pars de la situation actuelle, en énergie finale. En énergie finale, c'est 150 millions de tonnes équivalent pétrole. Si je continue simplement, je dirais sans rien changer, en disant simplement la population française va augmenter de 13%. Donc il faut bien que j'augmente. Et c'est ce qu'on appelle le scénario statu quo. On ne touche rien. Sauf qu'on prend en compte quand même que la population augmente. Minimum. Ensuite, par contre, je raisonne dans la continuité avec le fameux 1,5% par an de PIB. Étant donné que je n'améliore pas mon efficacité. C'est-à-dire que je garde les mêmes rendements dans l'industrie, les mêmes, et ainsi de suite. Donc je n'ai pas fait d'effort d'efficacité par rapport à la situation actuelle. Et donc à ce moment-là, ma consommation augmente de 30% par habitant. Par contre, les deux scénarios, un peu qu'on va comparer, négatif prévoit moins 27% par habitant, et le scénario négawatt va moins 58% par habitant. Alors ça situe les ordres de grandeur de l'effort. Alors voilà ce que ça donnerait, par exemple. Alors évidemment, les chiffres précédents, c'est pas les écarts, mais alors quand on voit maintenant, si on regarde les courbes d'où vient l'énergie entre ces deux scénarios, évidemment, il y a un monde entre les deux, puisque finalement, le scénario négatif, finalement, ne change pas beaucoup en énergie primaire. Pourquoi il ne change pas beaucoup? Parce qu'en fait, il augmente la part du nucléaire. Et chaque fois que vous augmentez la part du nucléaire en électricité, c'est multiplié par presque 3 en énergie primaire, dû aux pertes condenseurs. Donc il y a un effet, d'augmentation terrible. Bon, alors voilà. Par contre, donc toutes les autres sources d'énergie sont fortement augmentées. Par contre, dans le scénario mégawatt qui supprime complètement le nucléaire, il fait moins 70% par habitant en énergie primaire. Hein. Attention, voilà. Et donc on voit la différence fondamentale. Alors, grosse, évidemment, beaucoup, non pas de grande différence en ce qui concerne l'ensemble des renouvelables thermiques. Thermique, c'est-à-dire la biomasse. Par contre, des grandes différences en ce qui concerne les renouvelables électriques, l'éolien et le photovoltaïque. Alors, bon, là, c'est pour. Alors maintenant, je vais rentrer dans l'aspect finance, dans l'aspect coût. Alors, je vais. Quand on regarde les deux scénarios, le premier poste, c'est l'habitat. Bon, l'habitat, les ordres de grandeur, en moyenne en France, actuellement, c'est la consommation, c'est 230 kWh par mètre carré par an. Alors, pour situer, si vous avez un logement de 100 mètres carrés, ça fait 23 000 kWh. Bon, si vous êtes chauffé à l'électricité, ça doit vous dire quelque chose. C'est déjà beaucoup pour des chauffages. C'est pas du tout. C'est pour les chauffages nouveaux électriques, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, voilà. Maintenant, 23 000, ça veut dire, en fait, vous avez fait rentrer 2300 litres de fuel. Si vous chauffez au fioul, environ, pour montrer l'ordre de grandeur. Voilà. Bon. Par contre, ces 230 euros sont en fait se situer actuellement entre 400, on va dire, c'est les logements mal isolés, et jusqu'à 50, c'est les derniers logements relativement récents, bien construits. Entre, voilà. Et donc, de 400 à 50, voilà la situation actuelle. Alors, les deux scénarios diffèrent là totalement dès le départ, enfin très vite l'aspect. La conséquence, c'est que le scénario négawatt considère que la moyenne des 230 pourrait être amenée à 30. C'est-à-dire, on divise par 7. Presque 8. Et ceci est obtenu en agissant sur les logements anciens, qui eux, actuellement, les logements anciens, sont plutôt autour de 250-300. Eux, passe à 45, c'est-à-dire on suppose que tout le programme de réhabilitation va diviser par 7 ou 8 la consommation des logements anciens. Et alors là, chose extraordinaire, pour les logements neufs, ils considèrent qu'on arrive. Le maximum pour les logements neufs, ce serait 15, et la majorité des logements neufs serait même 0. Et, alors là, on arrive absolument quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle les BPOPS, c'est les bâtiments à énergie positive. Alors là, ce terme-là, quand il est pris quand les hommes politiques peuvent s'en servir, c'est extraordinaire. Seulement, personne ne dit, mais attendez, c'est quoi les logements énergie positive? Ben, c'est des logements relativement bien isolés. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et alors là, c'est considéré, c'est une catastrophe financière, c'est absolument invraisemblable. Donc la notion de bâtiment énergie positive qu'on entend de temps en temps, un maire est très fier de lui, moi je vais avoir des logements positifs dans mon... Et maintenant c'est même au niveau des régions. On parle de régions à énergie positive. Mais c'est une aberration totale, voilà, cette notion d'énergie positive, parce qu'en fait, ça n'est basé que sur le photovoltaïque, et quand il y a trop d'électricité, en été surtout, ben, où on l'envoie? Voilà. Et quand il n'y en a pas du tout en hiver, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on est en pleine aberration. Voilà. Mais bon, c'est pour montrer jusqu'où on peut aller. Voilà.
T'as l'air de dire que je suis négawatt, là.
Alors, voilà. Donc, ensuite, bon, ça, c'est l'aspect isolation, et c'est là-dessus que ça va coûter. Ça va. Alors, ensuite, les autres aspects, c'est l'aspect, évidemment, la sobriété. Donc, bien sûr, décision que désormais, on ne dépassera jamais les 19 degrés. Le scénario négatif considère qu'en fait, du fait du vieillissement de la population, on ne peut pas aller aussi loin. Donc voilà, Et ainsi de suite, voilà. Donc ensuite aussi, limiter la surface par habitant, c'est très facile de décider. Bon, par exemple, notamment au niveau du scénario négawatt, quand on regarde le détail, eh ben, c'est simple, ils ont prévu finalement que les personnes âgées, dans un logement où il y avait toute la famille, vous étiez 5 dans un logement... C'est pas possible. Maintenant, vous êtes que 2. Donc, il faut changer de logement. Puis maintenant, vous êtes tout seul, ce qui arrive de plus en plus. Et bien maintenant, on divise par 3 ou 4 les surfaces. Voilà, donc voilà l'ensemble de la démarche. Donc, moyennant quoi, avec ça, évidemment, voilà. Alors ensuite, voilà. Donc, ce que j'ai dit, j'en ai peut-être déjà dit deux mots. Alors, ça n'apparaît pas directement sous l'aspect financier, mais ça va quand même dans l'ensemble de la démarche. C'est que dans le scénario, on divise par 2 la consommation de viande et de laitage. Alors, c'est bon pour notre santé, on va dire, pour la viande. Pour les laitages, c'est peut-être plus discutable. Mais de là à diviser par 2, pourquoi ils font ça? C'est simplement pour pouvoir libérer, disons, entre 8 millions, 5 à 8 millions d'hectares de terres qu'on pourra utiliser pour faire des cultures énergétiques. Vous voyez, je sais pas, vous voyez. Donc ça, c'est un autre aspect. Alors ça, c'est sûr, ça ne coûte rien et ça ne va pas rentrer beaucoup dans mes bilans. Mais néanmoins, il faut en tenir compte. Alors voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, si on peut faire une conférence spéciale sur le logement. Par exemple, je crois, SLC et la SFEN en font une dans les jours qui viennent à Grenoble là-dessus, uniquement sur l'isolation des logements. Voilà, en fait, je vais prendre quelques exemples de points de repère. Prenez un logement, en rénovation. Si vous voulez ramener de 300 à 100 kWh par mètre carré par an, il faut investir 20 000 euros. Alors, on va dire, qu'est-ce que je vais gagner chaque année en consommant moins? Et là, on fait ce qu'on appelle un calcul simple, retour simple sur investissement. Alors là, c'est simple, c'est-à-dire, je regarde ce que je gagne chaque année et combien de temps je vais revenir sur combien j'ai mis. Donc ça, c'est déjà un calcul simple. Mais, en fait, ça fait déjà 20 ans. Mais le problème, c'est que pour faire ces travaux d'isolation, il faut emprunter. Et si on a maintenant un taux d'emprunt de 4%, eh bien là, le retour sur investissement est 40 ans. Alors, donc faire des travaux d'isolation avec des retours sur investissement, bon, c'est 40 ans, à moins de penser. Certains ne pensent qu'à leurs enfants, petits-enfants. Pourquoi pas, hein, voyez, mais enfin, voilà. Alors, si je vais un peu plus loin, si je veux aller jusque 50, alors disons, il n'y a pas de retour sur investissement, c'est l'infini. C'est-à-dire que poussé à l'extrême, eh bien, à ce moment-là, ça peut être pour d'autres raisons. Ça peut être pour des raisons de confort. On peut peut-être faire des travaux d'isolation pour se sentir mieux, hein, pour avoir moins un peu de courant d'air. Mais globalement, sous l'aspect financier, non. Voilà. Donc voilà ce que je voulais surtout montrer, c'est l'importance du coût est essentiel. Voilà. Et alors voilà vers quoi on arrive justement quand on fait l'analyse. Comment l'analyse est faite, rentrer dans le détail. Après, je vous donnerai comment aller éventuellement trouver le document détaillé. Il y a plusieurs documents qui permettent de décortiquer d'où tout ceci vient. C'est qu'on voit qu'en fait, il y a pratiquement un facteur 2, et vous en doutez déjà, entre négawatt et négatête, sur combien il faut mettre pour l'isolation de l'ensemble résidentiel et tertiaire sur les 40 ans à venir, parce qu'on raisonne jusqu'à 2050. Et on voit que... Et alors, ça veut dire que si le scénario négatète, par exemple... Il faut dépenser 15 milliards par an pour l'isolation sur les 40 ans à venir. Hein. Alors, ceci est à comparer à, non pas rien du tout, mais à statu quo 6,5. C'est-à-dire, parce qu'il y a toujours des choses à faire hein, dans le logement. Il y a quand même toujours des travaux de maintenance, des choses comme ça. Hein, il y a quand même, donc, on ne peut pas dire on compare une chose à rien du tout. Donc, voilà, on voit tout de suite la différence. On est quand même déjà des ordres de grandeur de 10 milliards par an en plus. Et si je vais au scénario négawatt, eh ben, c'est deux fois plus. Vous voyez donc la différence. Voilà. Alors, ceci est basé, quelques détails. Quelles sont les grandes lignes, quand même? C'est la construction de logements neufs. On barre sur 10 millions de logements neufs d'ici 2050. Selon les RT, alors là, bien sûr, il y a un obstacle majeur. C'est la fameuse RT 2012, hein, qui est absolument, j'espère qu'elle va être... Mais enfin, bon, il faudra probablement attendre un changement de gouvernement pour revenir sur la RT 2012, parce que la réglementation thermique actuelle pousse uniquement au chauffage gaz. Pousse avec la réglementation thermique actuelle, on va dans le sens d'augmenter les rejets de gaz carbonique. Hein. Si l'objectif, c'est de diminuer les rejets de gaz carbonique et diminuer la dépendance énergétique, là, c'est tout faux. La réglementation thermique est totalement fausse. Enfin, voilà. Enfin, et c'est la nouvelle réglementation thermique. Hein. C'est un changement qui a eu lieu entre 2005 et 2012. Brusquement, on a changé un petit chiffre dans un petit coin. Au point de vue réglementation, c'est presque passé inaperçu. Plutôt, ça se voyait venir depuis longtemps. depuis 2003, on voyait arriver ce genre de choses. Il a fallu, voilà, brusquement, voilà. Bon, alors, donc ça, c'est pour le neuf. Par contre, pour l'ancien, pour l'instant, il n'y a pas encore de réglementation thermique. Bon, il faut quand même admettre qu'on va devoir rénover 20 millions de logements anciens. Hein, et ça, quand même, des dépenses de 15 000 euros par logement, par envoyé, pour situer les ordres de grandeur. Alors, donc là, j'ai pris cet exemple-là pour l'aspect, économie d'énergie. Combien ça coûte? Le deuxième aspect... Maintenant, c'est l'aspect renouvelable. Faut-il plus de renouvelables? Oui, c'est sûr, il faut plus de renouvelables. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Au niveau mondial, on peut penser qu'on pourrait le multiplier par 4. Étant donné qu'au niveau mondial, l'essentiel de l'augmentation, contrairement à la France, où on ne peut pratiquement plus rien faire, c'est l'hydraulique. Par contre, au niveau mondial, on peut faire énormément de choses. Bon, il y a encore, on va dire, il y a toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique, enfin, il y a énormément, hein, puis je ne parle pas de la Chine, qui va encore multiplier les barrages. Bon. Alors, voilà. Donc ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Les renouvelables, forte augmentation, c'est sûr. Par contre, il y a un aspect coût. Alors, une fausse idée, ça serait gratuit. Ça, c'est l'idée générale. Alors, bon, alors là, justement, on verra après très vite que... Ça coûte une fortune. Certaines renouvelables coûtent une fortune. Donc, évidemment, l'air ne coûte rien. Mais bon, la facture générale, la facture qui suit, est terrible. Bon, donc voilà. Alors, il est clair aussi que tout le monde s'accorde, il faudrait mettre l'accent sur la production directe de chaleur. Et là-dessus, il n'y a aucun doute, et vous verrez tout après, que les scénarios sont finalement très proches. Par contre, il faut une certaine prudence sur les biocarburants, où on est parti à fond, disons, il y a presque 20 ans sur les biocarburants. 90 à peu près, disons. Maintenant, on revient là-dessus, évidemment, on se rend compte que ce n'était pas vraiment la bonne voie, les biocarburants actuels. Donc, prudent sur les biocarburants. Par contre, le problème qui se pose, et on le verra très vite, c'est que pour une électricité renouvelable, l'électricité n'étant pas stockale, il y a quand même un problème majeur qui est le stockage, comment faire face aux variations. Alors, pour montrer qu'en fait, finalement, si je prends les renouvelables chaleur, je sors l'électricité, je raisonne uniquement sur le chaleur, il n'y a pas de grande les différences entre les deux scénarios, elle n'est pas si gigantesque que ça. Il n'y a pas un facteur 2, il n'y a pas grand-chose d'écart. Enfin, disons, il y a 20% d'écart entre les deux scénarios. On considère que ces deux scénarios un peu limites. C'est-à-dire que les deux scénarios ont vu raisonnablement jusqu'où on pouvait aller dans l'utilisation des renouvelables chaleur. La différence venant essentiellement de la biomasse, ben c'est simple, c'est les quelques 7-8 millions d'hectares libérés. On mange moins de viande, donc il y a moins de prairies, point final, et donc ça libère, ça permet de faire beaucoup plus de biomasse. Pour le reste, c'est pratiquement la même chose. Donc voilà, vous voyez, donc ça donne une première idée. Alors, quand on parle des renouvelables chaleur, si j'aimerais maintenant, je m'amène sous l'aspect financier. Et combien ça coûte? Alors là, sur ce petit schéma, j'ai essayé de mettre un peu ce que j'appelle les retours sur investissement. Toujours avec une base de 4%, oui. Quels sont si je change de mode d'énergie, je remplace une énergie donnée par une autre. Et là, l'idée, bon, comme l'essentiel du chauffage est quand même actuellement au gaz, si je veux m'échapper du gaz... Bon, pas le chemin avec la RT 2012, hein, mais enfin, je raisonne peut-être en rénovation. Qu'est-ce que je peux faire au point de vue investissement? Alors, la chose qui est la moins coûteuse, c'est les bois bûches. Alors, évidemment, c'est acheter de très bons poêles, céramique, enfin voilà, sérieux, hein, disons, et malgré tout, sans les aides, hein, parce qu'actuellement tout est faussé, enfin tout a été faussé ces dernières années par les aides dans tous les sens, en dehors des aides, eh ben, on voit qu'on a actuellement, avec les coûts actuels du gaz, j'ai un retour sur investissement 10 ans. Donc ma foi, donc ça peut être un exemple, maison ancienne, vous pouvez mettre un poêle, mais vous avez des muscles et vous pensez que deux fois par jour, enfin à peu près, vous mettrez les bûches, vous mettrez les bûches dans votre poêle. Alors c'est des poêles fermés à autre isolation et tout ça. Hein. C'est du sérieux. Hein. C'est pas la cheminée ouverte. Hein. Interdiction totale des cheminées ouvertes. Interdiction aussi des inserts et tout ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Tout ça c'est à bannir complètement. Il n'y a plus qu'une ce type de solution extrême. Bon, mais là c'est 10 ans. Par contre, Si je raisonne en bois granulé, alors là, j'ai plus la bois granulé, il y a retour sur investissement, c'est l'infini, quoi. C'est pas, alors là, c'est uniquement l'aspect confort. Alors, donc ça, c'est pour l'aspect utilisation biomasse. Par contre, dans l'aspect biomasse et bois, il y a quand même une voie qui est quand même très favorable, c'est l'ensemble des réseaux de chaleur, c'est-à-dire des grosses installations, grosses installations bois, d'ailleurs, c'est de plus en plus courant, disons. Hein. On remplace actuellement dans les réseaux de chaleur, il y a dans le temps, on trouve du fuel, de vieille huile, du charbon, du gaz, on trouve un peu tout. Et à côté de ça, de plus en plus, là, il est clair que l'investissement, c'est de mettre du bois, mais du bois dit essentiellement d'élagage. Donc c'est un peu n'importe quel bois, mais c'est pas très cher. On va pas chercher trop loin. On va chercher à la limite dans un rayon de 50, même 100 km, hein, c'est toujours valable. Faut pas dire si je vais pas chercher mon bois à plus de 500 mètres, ça. Non, faut pas quand même. Même en faisant un bilan camion, même sur l'aspect gaz carbonique, c'est pas grand chose. Voilà. Donc après tout là, c'est quand même 15 ans. Et donc c'est là. Par contre, ensuite si je cherche les autres solutions, c'est les pompes à chaleur. Alors les pompes à chaleur, c'est très variable selon les modèles de pompes à chaleur, hein, bien sûr. En général, si je prends ce qu'on appelle les géosolaires, c'est autour de 30 ans. Par contre, si je prends le solaire, pour l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire uniquement les besoins d'eau chaude sanitaire, c'est 40 ans. Mais pourquoi l'eau chaude sanitaire, c'est pas mal? Parce que c'est surprenant, mais on se douche plus en été qu'en hiver. Vous réfléchissez, d'ailleurs, vous verrez, c'est évident. On utilise plus d'eau chaude pour se laver en été qu'en hiver. Et là, heureusement, il y a du soleil. Mais pour se chauffer, c'est en général l'hiver. Et donc, en fait, le chauffage solaire, ce n'est pas absolument les retours sur investissement, ça n'arrive jamais. Enfin, voilà. Voilà, donc ça, c'est pour vous-même des points de repère. Alors, quand on mélange tout ça, on arrive finalement, avec les deux scénarios, pas de grands écarts, et on voit que, alors là, ça, c'est donc tout ce qu'il faut payer pour changer, là c'est essentiellement, c'est les investissements. C'est les investissements et le coût de la biomasse. Donc, investissement plus biomasse, on voit que les deux scénarios se rapprochent un petit peu, il y a un écart, disons, d'environ une trentaine, disons, ça va faire 3-4 milliards par an entre les deux scénarios. Et par contre, par rapport au statu quo, on est encore à 20 milliards par an de plus. Alors, jusque-là, à chaque fois, j'en ai rajouté. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle va arriver à un moment donné où je vais baisser des choses. Alors, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Enfin, si, quand même, quelques points de repère, quand même, parce que ça peut vous concerner tous. Je disais, par exemple, les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, il y a un chiffre, on a pris un chiffre moyen de 12 000 euros par pompe à chaleur. C'est très variable. Ça peut varier de 8 000 euros, 7-8 000 euros pour les pompes à chaleur, on va dire RO, par exemple. Mais par contre, si je fais une pompe à chaleur en puits profond, j'arrive à 25 000 euros, parce que ce qui coûte surtout, c'est le puits, vous voyez. Enfin, il y a toutes les variantes. Donc là, c'est une moyenne, c'est un ordre de grandeur pour la moyenne, voilà. Alors, à titre, si quand même, parce que c'est pas non plus négligeable, le solaire thermique représente quand même une sacrée dépense, 90 milliards au total. Et ça, c'est tout à fait clair. Hein, c'est quand même presque, disons, c'est 3-4 mètres carrés de panneaux solaires pour eau chaude sanitaire par habitant. Parce que vous voyez l'ordre de grandeur. Donc vous voyez quand même, c'est pas négligeable. Voilà. Alors maintenant, on arrive, bien sûr, ce qui est le gros point où il y a les grands écarts entre les scénarios. Et là, c'est là qu'on peut mettre tout ça en évidence. C'est un peu l'électricité. Alors, l'hydraulique, pratiquement, il y a un accord. Pratiquement, on arrive les mêmes valeurs. C'est-à-dire, on considère qu'on ne peut plus faire grand-chose côté hydraulique. Des petites améliorations des installations en cours. Pas vraiment, pas d'installations nouvelles. Voilà. Donc, après les écarts... voilà. Alors, là où on arrive à des écarts gigantesques, c'est sur l'éolien et sur le solaire photovoltaïque. Entre les deux scénarios. Bon, vous voyez, donc là, ils en prévoient. Par rapport à la. Donc là, c'est la situation 2012. En 2015, 2014, on était à 8 ici. Donc, même le scénario négatif. Dieu sait, d'ailleurs, on nous a reproché ça avec Pierre de nombreuses fois. Mais vous auriez dû mettre zéro tout de suite pour l'éolien, parce que on peut pas. Bon, ben, on considère qu'on est emporté un petit peu par le vent. Emporté par. Et bon, la tendance générale, c'est quand même à faire de l'éolien. Et d'ailleurs, c'est presque dans la loi de Grenelle. Alors, si on va pas trop s'écarter de la loi, mais on espère qu'on n'y arrivera jamais. Mais néanmoins, donc, dans d'ici 2050, on n'exclut pas que quand même l'éolien puisse monter pas mal. Par contre, pour arriver à ces chiffres-là, bon, c'est fait. Et par contre, c'est surtout aussi l'écart. Actuellement, le solaire, c'est quasiment zéro. Et donc, on voit que des valeurs très importantes. Et globalement, il y a un facteur, actuellement 75. Là, c'est un peu plus de multiplié par 2. Et là, c'est multiplié par 5. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'aspect, on va dire, technique. Bon, là, pour l'instant, je n'ai pas du tout regardé l'aspect financier. Alors, excusez-moi. Alors, bien sûr, pourquoi les réticences des équipes, enfin, de la réflexion Négatep, ces limitations, c'est essentiellement l'aspect intermittence. Alors, quand on parle d'intermittence, il faut déjà voir que les besoins d'électricité, au niveau de la journée, comment ils varient. Voilà des courbes. Là, c'est une courbe moyenne d'hiver temps moyen. On constate qu'on part toujours à 4 heures du matin. Il dit d'une façon simplifiée, la vie en France démarre à 4 heures du matin. Pour savoir un peu ce que font les Français, il n'y a qu'à regarder la consommation. Voilà. Et en effet, à 4 heures du matin, tout démarre à 4 heures du matin et ça monte. Alors après, ça monte pratiquement de 20 000 mégawatts, pas tout à fait, jusqu'à. Alors après, c'est pas tout à fait comme ça selon tous les jours. Là, c'est un jour moyen. Ça monte jusque autour de midi à peu près. Et puis on a toujours une baisse dans l'après-midi. Un début de baisse dans l'après-midi. Et puis après, une remontée, ce qu'on appelle couramment le pic. Voilà, à peu près. Et après, ça baisse et ça redescend pendant toute la nuit jusqu'à arriver au creux. Voilà. Donc ça, c'est la courbe en hiver. En été, on a une courbe qui est à peu près la même, sauf qu'elle est quand même décalée d'environ 20 000. Et l'allure générale est la même. Et, aux surprises, vous avez aussi un pic en hiver, en été. Pourquoi ? Parce que en été, c'est surtout l'éclairage. C'est les micro-ondes, c'est les téléviseurs et tout ce qu'on met en service quand tout le monde rentre dans la maison. Donc le pic n'est pas entièrement lié au chauffage électrique. On peut dire qu'il est à moitié lié au chauffage électrique. Alors actuellement, pour faire suivre ces variations, comment fait-on ? Eh bien, on joue sur les producteurs. Et chaque producteur doit faire varier sa puissance selon ce qu'on appelle un programme journalier. On appelle ça de la veille pour le lendemain. Chaque producteur, on lui dit, demain, à telle heure, vous baisserez, et ainsi de suite, quand vous pouvez. Et donc, chacun contribue, en fait. Et donc, le premier contributeur, c'est l'hydraulique. C'est environ 10 000 mégawatts, l'hydraulique. C'est le plus simple à régler, le plus rapide. Puis ensuite arrive quand même le nucléaire. Alors là, c'est 5, c'est une moyenne, mais en fait, le nucléaire, certains week-ends, ça va jusqu'à 10, facilement jusqu'à 10. On a même des week-ends à 15 gigawatts de variation dans la même journée. Bon, ça veut dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête les. Oui, ça, c'est un discours qu'on entend courant. Une centrale, il faut 3 jours pour démarrer une centrale, mais on n'arrête pas une centrale le week-end. On baisse simplement sa puissance facilement, mettons à 30-40%, enfin, facilement. Après, ça dépend, il y a beaucoup de. Ou pas trop. Disons, ça dépend de l'usure du cœur, il faut prendre en compte beaucoup de considérations, mais en moyenne, disons, on peut quand même faire des variations significatives. Le nucléaire n'est pas dire, c'est pas du tout ou rien. Voilà. Donc, et chacun participe, et puis on joue aussi sur les. Actuellement, on joue un peu sur les imports-exports. En fait, on joue beaucoup. Ça dépend des années. Il y a eu des années. Sur moyenne, c'est très rare qu'on arrive à importer les points. On est en général en forte exportation, cette situation actuelle. Voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle. Voilà ce que font les producteurs actuels. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on rajoute ? Alors moi, j'arrive. Là, on rajoute le mauvais élève, celui qui n'exacte jamais là où il faut. quand on, hein, c'est les, un professeur, dit, il rentre dans sa classe, il dit « levez-vous, tout le monde s'assoit », et « asseyez-vous, tout le monde se lève ». C'est-à-dire, en fait, on n'a jamais la puissance au bon moment. Enfin, plutôt, de temps en temps, ça peut tomber. Mais en fait, en effet, ça peut tomber. Et en effet, la puissance éolienne peut varier, disons, du maximum à quelques... Allez, d'un facteur 2 dans la journée, ça c'est courant, peut aller du maximum à 3 à 5% en 3-4 jours. Et voilà, donc c'est un chahut invraisemblable. Et donc, il faut faire face. Et donc, c'est là qu'est quand même le problème majeur. Indépendamment de l'aspect financier, c'est quand même ça. Alors, donc, voilà. Donc, et pourquoi ? Ben, la question que se pose, évidemment, c'est qu'il faut, il faudrait pouvoir stocker l'électricité. Et ça, c'est la clé de base au développement de ces renouvelables électriques. Il ne faut quand même pas oublier qu'actuellement, l'essentiel, quand même, si elle, actuellement, la souplesse vient de l'hydraulique. Heureusement que l'hydraulique est là, hein, et donc elle sera toujours là. Mais l'hydraulique actuelle est déjà complètement utilisée dans ces variations. Puisqu'en plus, il faudrait, si l'hydraulique est déjà suffisant, on ne ferait pas des baisses de puissance de nuit pour certaines centrales nucléaires et certains week-ends. Hein, parce que l'hydraulique, en fait, actuellement, est déjà au maximum. Mais l'hydraulique est essentielle. Alors à côté de ça, ben, quels sont les moyens possibles? Alors ce qu'on appelle les STEP. STEP, c'est station de transfert d'eau pour pompage. C'est un barrage. Alors, ce qu'il faut, alors ça c'est souvent oublié, c'est trop tellement facile. En fait, il faut avoir un barrage bas. C'est-à-dire, en fait, l'eau arrive d'un barrage en haut, je laisse écouler, et puis je la conserve dans un barrage en bas, et je la remonte. Si j'ai pas ce barrage bas et que je laisse couler, je ne pourrai jamais la remonter. Et donc l'idée de dire on va me faire des steps, partant des installations actuelles, non. Or, en fait, le barrage qui dit bas, c'est dans la plaine. Et la plaine, on aura du mal à trouver des emplacements pour faire de nouveaux lacs. Donc, pratiquement, et d'ailleurs, là, les deux scénarios sont à peu près d'accord. Donc, on considère, voilà. Donc, personne ne dit, voilà. Alors, ensuite, on arrive vers des... Alors, ensuite, on sort, tout à fait. Alors, on a la fameuse méthanation. Alors, on en parle beaucoup, je ne sais pas si... Enfin, en fait, ça consiste non pas à produire d'électricité, mais quand on a trop d'électricité venant de l'éolien, par électrolyse, on produit de l'hydrogène. Cet hydrogène, je la mélange avec du gaz carbonique et je produis du méthane. Et ce méthane, je ne le brûle pas, je l'utilise en tant que gaz, soit pour mettre dans les circuits de chauffage, dans l'ensemble chauffage, soit pour les voitures. Voilà. Donc ça, c'est la solution, méthanation, voilà. Et c'est la base du scénario négawatt. On peut passer par... Ah oui, alors bon, petit détail. Alors, dans le scénario négatif, c'est une option qui nous joue sur très peu, mais c'est une petite option. Quand on a trop d'électricité, disons, on va dire, mettons nucléaire en été, c'est faire de l'électrolyse et d'en rester à l'hydrogène et d'utiliser cet hydrogène pour valoriser la biomasse dans la production des biocarburants. Et enfin... Mais ça, c'est pas du stockage d'électricité, mais ça a un rôle majeur dans les scénarios. C'est en fait utiliser les batteries des voitures, parce que scénario néga step surtout, il pousse à fond pour les voitures électriques, soit hybrides, mais hybrides rechargeables. Et à ce moment-là, si on considère qu'on fera les recharges de batteries les nuits, alors là, on n'a plus du tout de creux de nuit. C'est-à-dire la courbe de puissance, elle est plate toute la journée. En plus, je ne sais pas si vrai, puisque si en plus on met que les chauffe-eau électriques que la nuit, que tout le monde ait les chauffe-eau électriques que la nuit, il n'y a plus du tout de... La puissance peut être pratiquement plate toute l'année. Voilà, donc voilà. Alors, il n'y a pas que ça, il y a d'autres idées, notamment des idées qui passent par l'hydrogène. Mais à ce moment-là, par hydrogène pur en utilisant, ça a des rendements tellement impossibles que... Bon, c'est même pas retenu dans les scénarios. Alors, l'intermittence, c'est simple. Quand il n'y a pas de vent, il faut qu'il y ait à côté une installation qui puisse produire, si j'ai besoin d'électricité. Donc cette installation, elle est là, ça veut dire qu'elle a été investie. Donc il faut bien retour sur investissement, payer sur l'investissement. Ensuite, elle est là, prête à fonctionner. Et pas fonctionner un mois de temps en temps. C'est du jour au lendemain. Donc les équipes d'exploitation sont là. Donc il faut payer tout ce monde. Donc l'intermittence coûte excessivement cher. En remboursement des emprunts sur les installations qui seront peu utilisées, Voilà. Et donc, globalement, quand on fait une analyse de ça, on estime... Alors après, les ordres de grandeur, c'est 50 euros du mégawattheure, mais je reviendrai après pour vous montrer sur des schémas ce que coûte l'intermittence. Alors, bon, le nucléaire, bon, je pense qu'il fallait replacer un petit peu quand même le coût du nucléaire. Donc là, je n'ai fait que reprendre les chiffres donnés par la Cour des comptes. Avec ce qui est important, c'est de voir un peu la répartition. Le chiffre global, environ 60 euros du mégawattheure. L'exploitation, proprement dite, avec très peu. Alors, ce qu'il faut importer, c'est de l'uranium. Donc c'est très peu. La partie importation est très peu. Bon, le combustible représente 5,1%. Le combustible, c'est 7 à 8% en soi. Mais le combustible, l'essentiel des coûts de combustible sont faits en France, sont dépensés en France. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le fameux loyer économique, c'est-à-dire remboursement du capital. Et tout tourne beaucoup autour des discussions, autour de ces chiffres-là. Que prend-on ? Alors là, on considère qu'on redémarre à zéro. C'est-à-dire qu'il faut mettre le pouvoir... chaque fois que je consomme du mégawattheure, il faudra que je prépare l'argent pour pouvoir investir dans la même installation 40 ans après. Voilà. Donc je ne tiens pas compte de tout ce qui a déjà été... payé avant, hein, donc on repart à zéro. Et donc on voit ce qu'on appelle le loyer économique. On construit un parc identique. Ensuite, on arrive, alors là on est sur l'existant. Les investissements sur l'existant, il y a deux volets. Il y a le volet tout ce qui était suite à Fukushima. Hein, il y a quand même une suite à Fukushima, il y a eu des investissements supplémentaires prévus. Et il y a aussi, pour prolonger la durée de vie au-delà des 40 ans, il faut aussi investir. On peut penser notamment, il y a quelques gros postes comme les DGV, enfin vous voyez tout. Voilà, donc ça c'est des investissements sur l'existant. Et voilà, et puis restent les postes qu'on dit souvent, ils sont complètement oubliés. Non, ils ne sont pas du tout oubliés, ils sont bien là. C'est les provisions pour les déchets, l'argent qu'on met de côté pour sur les déchets à la fin, les déchets qu'on va mettre par exemple sous terre, hein. Il faudra bien, faut prévoir l'argent pour ça. Et les provisions pour démantèlement, ces deux postes sont non pas complètement nuls, mais ils ne sont pas insignifiants, mais ça rentre pas, voilà. Bon, donc ça, c'est, voilà, donc ça, c'est basé sur... Alors maintenant, si on ramène, évidemment, si on reprend les mêmes calculs, parce que ça, c'est pas ce qu'a fait la Cour des comptes, mais si on dit, si j'ai fait d'investissement sur l'existant et que je prolonge la vie d'autant, je peux cette fois-ci rembourser, avoir mon amortissement sur 50 ans. Et donc, j'ai mon prix, normalement, devrait être un peu plus bas. Voilà. Alors, pour EPR, tête de série, actuellement, alors, qu'on entend souvent dire, EPR, alors certains disent, EPR, ça coûte 3-4 fois plus cher que prévu. Alors déjà, là-dessus, les chiffres actuels, c'est quand même pas tout à fait ça. Les chiffres annoncés ont été de 4,5 milliards au départ. S'ils se montent à 8 ou 9 milliards, c'est quand même multiplié par 2. D'accord. Mais, ça joue sur quoi? Et donc, certains disent, oui, mais votre prix du nucléaire, là, il est multiplié par 3. Mais ce n'est que cette partie-là qui est multipliée par 2. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait... Bon, alors, c'est sûr que le PR actuel, c'est cher. Mais c'est pas... Voilà. Alors, si on considère maintenant que ça s'est révélé dans toutes les constructions jusque-là, à partir du moment où on fait de la série, on considère que sur un site, je mets 2 centrales. Après, je fais de plusieurs sites, à chaque fois, je divise, je ramène de 20 ou 30% le prix, alors pour pas non. Donc, disons, on peut penser que les prix de série vont revenir à 70. Donc, beaucoup plus cher qu'actuellement, hein. C'est clair que EPR coûte plus cher. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, voilà. Voilà. Alors, oui, alors, quelle va être l'évolution? Alors, l'évolution du parc nucléaire selon les deux scénarios, et bien sûr, est totalement différente. Hein. Ça, vous en doutiez. Voilà. Donc, le scénario négawatt, c'est simple. On arrête tout. On arrête Fessenheim au bout des 40 ans. Et puis, on y va. On arrête tout le plus vite possible. Voilà. Donc, ça, c'est le scénario. Alors, le scénario négatif, qui prévoit plus de nucléaire, plus d'électricité décarbonée dans nucléaire, eh bien, disons, prévoit en effet de faire au moins les 50 ans de durée de vie en moyenne. En fait, ça ne sera pas 50 ans en moyenne. Enfin, plutôt si ça sera en moyenne, mais il faudra étaler ça dans le temps. L'idée, c'est que certains, il faudra aller jusqu'à 60 ans, et d'autres s'arrêter au bout de 45 ans, de façon à pouvoir renouveler le parc de façon beaucoup plus lissée que ça a été la construction. Et donc sur cette base-là, voilà le parc actuel qui arrive à un moment donné. Voilà. Et à côté de ça, il faut remplacer par des EPR. Au fur et à mesure, on arrête, il faut des EPR. Et ensuite, il faut répondre à l'augmentation des puissances. Et alors là, on va très loin. Bon, là, on est au-delà de 2050. Mais enfin, juste quand même un petit mot pour voir une vision à long terme. C'est de dire, mais les centrales là que je vais construire là, en 2050, si elles sont dimensionnées pour fonctionner 60 ans, ça veut dire 2110, je ne sais plus, oui. Ah, il est probable qu'à ce moment-là, on n'aura plus assez d'uranium au niveau mondial. Et donc, il ne faut pas non plus continuer ça indéfiniment. Et donc, il faut se préparer à ce manque d'uranium, de même qu'il n'y aura plus. Bon, allez, le siècle prochain, schématiquement, il n'y aura plus de pétrole. Il y aura deux fois moins de gaz qu'actuellement. Par contre, il y aura deux fois plus de charbon, schématiquement. Mais si on pense au niveau mondial une augmentation significative du nucléaire, que tous les pays ne fassent pas comme la France, hein, c'est pas possible, mais quand même une forte augmentation, ça veut dire qu'on va quand même arriver vers 2150, quelque part, à avoir les mêmes problèmes de manquer d'uranium dans l'utilisation actuelle. Donc à ce moment-là, il faut se préparer à ce qu'on a fait, la quatrième génération, c'est-à-dire les réacteurs qu'on va appeler les rapides, mais il n'y a pas que les rapides sodium. Enfin, la base, là, c'est marqué SFR, c'est les sodium. Enfin, il y a d'autres variantes possibles. Il y a la filière thorium, enfin, on y croit plus ou moins. Mais enfin, donc voilà. Donc, mais de toute façon, ça, c'est quand même dans assez longtemps. Alors voilà. Donc, l'aspect que maintenant, quand on remate tout ça au point de vue coût. Alors, quelle est la référence du coût actuellement? Ce qui fixe un peu le coût, c'est le marché mondial, le marché européen du charbon, autour de 70-80 euros du mégawattheure. Oui, alors vous, quand vous voyez vos factures d'électricité, vous, elles sont chiffrées, vous, en centimes d'euros du kilowattheure. Alors, il y a un facteur 10 entre les deux. Alors, donc, mettons, si je dis c'est 70, pour vous... Vous dites, attendez, 7 centimes, mais moi je paye 10 centimes. Là. Je paye 12 centimes, 14 centimes. En fait, la différence, c'est la distribution. Parce que là, c'est les coûts à la production. Et donc, quand on parle de parité, on raisonne souvent la distribution, mais il faut raisonner à la production. Parce qu'il faudra toujours le transporter, le courant. Voilà, donc, si on part du charbon, comme un point de départ de référence, on voit là les différents coûts potentiels du nucléaire. Là, on raisonne. C'est un objectif milieu du siècle. Hein. L'hydraulique, alors là, les prix d'hydraulique sont tellement variables, ça n'a pas... Comment on peut plus rien... Bon, disons, si on doit faire des nouvelles installations, on est sûr qu'on est autour de 150. Hein, voilà, pour les nouvelles. Alors maintenant, on arrive sur là où il y a de grandes différences, c'est sur l'éolien. Alors l'éolien terrestre, actuellement, est autour de 75-80 euros du mégawattheure. Mais on ne peut pas ne pas prendre en compte l'intermittence. Car il faut bien, à côté qu'il y a des installations qui viennent en secours. Oubliez, c'est aussi le surcoût des réseaux important, parce que l'éolien, c'est beaucoup d'installations réparties. Voilà. Alors ça, c'est pour l'éolien terrestre. Alors l'éolien en mer, actuellement, les derniers contrats, et là, on ne sait pas comment la France, qui est, apparemment, on doit être excessivement riche, parce qu'on est en train de signer des contrats d'achat d'éolien en mer, en Bretagne essentiellement, zone Bretagne, Normandie, tout ça, à 220 euros du mégawattheure, c'est-à-dire 5 fois le prix du nucléaire. Et donc, il faut affecter l'intermittence. Tout ce qu'on peut espérer, alors tout ce que certains espèrent, c'est que l'éolien en mer, le prix va baisser. D'où cette incertitude-là. Jusqu'où va-t-on baisser dans l'éolien en mer? Quant au photovoltaïque, alors là, les prix sont vertigineux. Voilà. Et... juste pour situer, rien que les engagements de Grenelle de l'environnement, c'est tout pour moi, pour le Grenelle de l'environnement, actuellement, c'est 7 milliards par an, si on s'en tient, aux objectifs relativement limités du Grenelle de l'environnement. C'est 7 milliards par an, et ceci se voit dans ce qu'on appelle la CSPE, et disons, la CSPE actuellement, c'est de 16 euros par mégawattheure. Mais ce chiffre est faux, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup plus cher qu'EDF. La CSPE ne remplace pas le coût réel d'EDF. Ah, ben oui, ça tombe. Ça, voilà. Donc voilà, pour l'électricité. Voilà, donc, je vais pas. Donc on voit bien que les scénarios se diffèrent totalement en ce qui concerne la production d'électricité. Alors maintenant, si j'arrive sur les coûts de l'électricité. Alors, l'électricité, alors là, il est clair que le négatep, l'ensemble de l'électricité, négatep, coûte plus que négawatt.
Mais parce qu'il y a du nucléaire.
Mais.
Parce qu'il y a du nucléaire.
Non, parce que négatep, c'est 9, c'est deux fois plus de... Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est parce qu'il y a deux fois moins. Parce qu'il y a deux fois moins d'électricité dans négawatt que dans négatep. C'est serrez-vous la ceinture, c'est la marche à pied, c'est tout ce que vous voulez, c'est l'ensemble. Et puis, par contre, comme il y a deux fois moins, on peut évidemment se payer. Du coup, même si l'éolien coûte, on va dire, deux fois plus cher, ce deux fois moins, c'est bien, on a à peu près les mêmes prix globaux. Je ne sais pas si vous voyez.
Voilà. C'est lié au fait qu'il y a beaucoup plus de production.
Ah ben, négatif, deux fois plus de production que. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais malgré tout, on voit que, disons, le nucléaire est quand même le gros poste de consommation. Dans négatep. Et ensuite, l'éolien, c'est. Mais pour eux, ouais, là, vous avez tout le détail des prix individuels. Alors, voilà, maintenant, je remonte toutes mes briques les unes après les autres, parce que chaque fois, jusqu'ici, j'ai été toujours plus, mais il y a un moins, quand même, c'est la consommation. L'objectif, quand même, c'est de consommer moins de combustibles fossiles. Et donc, le moins arrive enfin. Voilà. Et donc, globalement, par rapport au statu quo, si je prends négatep par rapport au statu quo, ben je vois que j'ai un petit peu plus. Ça veut dire, par rapport au statu quo, globalement, ça me coûte plus cher. Si je ne fais rien, ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, ça coûte... enfin, non. Ça coûte toujours. Voilà. Alors, par contre, par rapport à la tendance, un négatep coûte un peu moins que la tendance. Et là, on voit l'intérêt quand même de l'ensemble économie d'énergie par rapport à une tendance. Et négawatt, alors, où vient la différence? Ben, la différence essentielle vient de le coût de l'efficacité. Donc là, c'est toutes les opérations d'isolation qui coûte très cher. Ensuite, beaucoup plus de renouvelables thermiques. Enfin, pas beaucoup plus, un peu plus de renouvelables thermiques. Parce que si on a plus de surface en bois et tout ça, il faudra aller chercher. Et coûte surtout beaucoup plus cher en renouvelables, en électricité intermittente. Donc ça, c'est le coût de l'éolien et du photovoltaïque. Pour une production qui est quand même beaucoup plus faible que celle du nucléaire. Voilà, donc voilà. Alors, si je résume, ce qui est intéressant, je crois que ce qui est intéressant, c'est de comparer au statu quo. Je rappellerai le statu quo, je reste par habitant le même mode de vie. Je remonte quand même pour le nombre d'habitants. Et donc, il faudrait même dépenser 10 milliards par an par rapport au statu quo. Mais ceci, bien sûr, est basé avec les coûts actuels des combustibles fossiles. Alors, c'est sûr que quand avec Pierre, on a fini toutes ces études-là, on était encore dans une période de forte montée des combustibles fossiles. Donc, je n'ai pas repris depuis. Mais bon, je pense que la baisse actuelle des combustibles fossiles, bon, allez, dans un an, ça va redisparaître à nouveau. Et donc, la courbe sera toujours présentable. Et voilà. Donc, globalement, malgré tout, la transition énergétique devrait coûter par an entre 12 et 20 milliards, selon le scénario. Étant donné que derrière ce scénario, il n'y a pas que la technologie, les choix techniques, il y a aussi la sobriété, le mode de vie. Voilà. Alors, si ça vous laisse rêver, enfin, je pense que certains d'entre vous ont vu déjà ça. Si vous voulez rêver là-dessus, ben, vous pouvez. Bon, voilà.
Merci. On peut poser des questions, hein, ou on fait une interro écrite. Là, pour voir si vous avez obtenu tous les chiffres. C'est très difficile à exposer, ça. C'est...
Quelle heure j'ai tenu?
Et donc, merci.
Oh, ben ça va. J'étais dans les temps.
Et vous y asseoir?
Je crois qu'il est sur le site. Donc, est-ce que la version là, du PowerPoint, c'est...
Je l'ai.
Tu l'as.
Tu l'as repris, là.
Je te ferai un PDF avec.
Ouais. Merci. Il est touché. Très bien.